appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes là comme tous les lundis soirs de 21h à 22h. Cette année, voilà, c'est la deuxième émission de cette rentrée. Et ben, on va essayer de tenir le rythme, d'être là tous les lundis soirs et de vous parler comme toujours de cannabis de chanvre et de drogues illégales multiples ainsi que des drogues légales. D'ailleurs.
Allô, allô.
Ah, pourtant, ah, voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, il faut bien brancher tous les potards, sinon ça marche pas.
Vas-y, continue.
Voilà, qu'est-ce que...
On sera là tous les lundis, oui.
Qu'est-ce qu'on peut annoncer aujourd'hui?
Alors, on va parler un petit peu de la commission d'information relative à la procédure de l'amende forfaitaire en cas de délit d'usage de stupéfiants.
Parce que t'as pris le temps de toutes les écouter?
Oh non, mais j'ai écouté tout ce qu'avait à dire le cirque et d'autres et quelques autres.
D'accord,
tu,
d'accord.
Tu l'as un peu regardé la vidéo sur le site de l'Assemblée nationale, non?
Très très peu. Je suis allé, voilà, vous allez sur le site Assemblée nationale, vidéo, hop, vous tombez dessus. Et il y a un petit truc, vous voyez, des feuilles, des enjoints avec d'un côté le tabac, le shit, la feuille ouverte, voilà. Et vous cliquez dessus, vous avez une ribambelle de vidéos de toutes les associations possibles et imaginables. Cannabis sans frontières, Normal...
Sud, il y avait Anne Coppel.
Il y avait le cirque aussi, voilà. Il y avait deux, trois personnes selon les associations.
Il y avait Michel Sidbon aussi, responsable des éditions du Lézard. Me semble-t-il, hein, c'était des éditions du Lézard, c'est ça?
Tout à fait, voilà, tout à fait, ouais.
Voilà, bon, après il y avait d'autres, il y avait des magistrats aussi, il y avait des gens du syndicat de la magistrature, parce que les auditions, elles se sont déroulées. Alors, le cirque a participé avec les autres associations d'usagers, c'était jeudi. Il y avait du monde qui était auditionné le mercredi, il y avait des gens qui étaient auditionnés la semaine précédente, également. Voilà, bon, on va parler un peu de ça, On parlera aussi d'un jeune Français qui se retrouve à Bali et qui risque pratiquement sa vie pour 14 grammes de cannabis. On va voir ça.
Voilà, et puis après on va voir aussi les adolescents vus par les qui fument du cannabis vus par le Figaro. Ça fait peur, mais bon, voilà. On va voir aussi la Voix du Nord, un fromager qui vendait du fromage au cannabis. En mettant ça en vitrine, donc s'est fait embêter par la police. Alors que
il aurait utilisé le mot en français et hop, ça passait, je pense.
Ouais, fromage aux chambres, c'était très bien.
Ouais, mais au cannabis, oulala, c'est un mot.
Oulala, voilà.
Mot qui fait
surtout
peur.
Surtout que c'était que du chenvil, que des graines. Hein,
oulala,
voilà. Après, le cannabis peut soulager. On verra aussi quelqu'un qui fait de la culture à domicile, qui a mangé quand même bon. 6 mois plus les 9 mois sursis qui ont été révoqués pour une conduite sans permis, quoi. Voilà, donc il a pris quand même 15 mois. Heureusement, on verra des choses un peu plus intéressantes au Québec, ainsi que sans doute en Suisse, où ils sont prêts à légaliser. Au Québec, ils sont en train de légaliser. Voilà, donc comme tout le Canada. On verra aussi des pays où ça fait très très peur. Alors c'est comme l'Indonésie, là c'est les Philippines. Voilà, c'est toujours le dictateur qui veut tuer tout le monde et tous les fumeurs. La police
c'est
a
pas
toujours...
un dictateur.
La police a toujours carte blanche. Ils ont voté le budget de l'État et donc ils ont donné 16 euros à la commission des droits de l'homme.
Qui travaille notamment sur ces questions d'assassinat arbitraire.
Voilà. Et puis on reviendra peut-être sur le débat, celui qu'on a commencé et qui se passe avec les auditions, avec un grand article de l'OIP.
Qu'on n'avait pas pu voir la semaine dernière.
Voilà, qu'on ne verra peut-être pas plus cette semaine, mais
ça
bon,
bien,
on verra bien. Et puis on verra aussi tabac, cannabis, alcool, écran. Nos enfants sont-ils tous accros ou alors un autre article, la jeunesse en danger. Voilà, avec les jeunes qui boivent surtout beaucoup trop et beaucoup trop vite, ce qui est tout aussi dangereux que le cannabis, hein, puisque les drogues légales pris à haute dose et quand on est jeune sont aussi mauvaises que les drogues illégales prises à haute dose quand on est jeune. Voilà, légalisation, hein, le seul combat qui vaille, sortir de cette prohibition qui n'importe rien. Et donc, on va peut-être revenir un tout petit peu sur ces auditions, si tu voulais rajouter quelque chose.
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, voilà. Non, donc on va faire un petit coup de musique.
Ouais, et puis on va en parler après.
Allez, ça roule.
Voilà. Allez, tout de suite.
On est lourd de cerne, mais la foule se glisse dans un couloir de métro. Les yeux rivés sur l'aiguille à regarder passer le temps qui se faufile comme une anguille et ne cesse de te mettre dans le vent. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise. Ah bah tu crevais le dos courbé par ton horaire, tu ne sais plus quoi faire pour te distraire.
Grincement du métro, le train est à l'approche et c'est le mouvement de foule qui te noie comme là où tu cours sans y penser. Le temps décompté, chaque minute de gagner comme un chèque bien encaissé.
Yeah, tu finiras par lâcher
prise
dans ton flirt avec la crise. Tu finiras par lâcher
prise
dans ton flirt avec la crise. Yeah, man, yeah, man, yeah, man, yeah. Envolé d'un courant d'air, écrasé la gueule par terre, on est toujours à bout de souffle, à bout de nerfs dans sa multinationale. Actif de nombreuses années, c'est le technocrate de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires, qui a écrasé nos vendeurs de réverbères, qui fait du gringard sa secrétaire et qui se retient pendant la prière, qui pratiquera son art de la maîtrise. Comment profiter de la crise, comment profiter des petites entreprises,
et de son flirt avec la crise. Yeah. Manier,
elle est plus forte que toi,
la crise, la 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 la. Elle est plus forte que toi,
la crise,
la 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 la.
Elle
est plus forte que toi, la crise. Elle est plus forte que toi, la crise.
Vous avez reconnu Trio pour un flirt avec la crise.
Voilà. Donc, on va parler un petit peu donc de ces auditions. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous rendre sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, c'est http://video au pluriel.assemblée-nationale.fr. du 6 national.fr, voilà pour le site. Je pense que si vous tapez dans les barres de recherche commission d'évaluation, commission, je sais pas quoi, amende forfaitaire liée à l'usage de stupéfiants, voilà, vous allez tomber sur la vidéo. Sinon, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du Cirque ou du Cirque Lyon. Et dans le fil d'actualité qui a été partagé tout au long de la semaine dernière, bah vous trouverez les liens qui vous permettront d'arriver sur la page de la vidéo, de la bonne vidéo. Voilà. Donc, comme je disais, hein, ces auditions n'ont pas été limitées aux seules associations représentant des usagers, mais beaucoup de personnes qui sont un peu de la partie hein, dans toutes ces histoires-là, donc des magistrats, le syndicat de la magistrature, des gens de comment dire de tout ce qui est relatif aux droits de l'homme aussi ont été invités à s'exprimer. Voilà, il y a aussi des addictologues comme d'habitude. Enfin bon, bref, puis voilà. En dernier, il y avait les associations d'usagers. Donc on parlait du cirque, mais aussi le Normal, Chambre et Liberté. Non, pas Chambre et Liberté. Cannabis sans frontières, pardon. Il y avait Assud aussi. Il y avait, alors c'est pas, enfin Anne Coppel fait partie d'Assud. Hein. C'est une sociologue également hein, qui travaille sur la question depuis plus de 20 ans. Il y avait un éditeur aussi qui s'appelle Michel Sidbon qui était présent jeudi après-midi.
Il y avait voilà. Aussi des associations qui étaient contre la légalisation d'ailleurs. Hein.
Qui étaient présentes jeudi ?
Ah, peut-être pas jeudi, ah, oui. Pardon.
La semaine dernière.
J'ai regardé, ouais. J'ai eu.
La semaine ouais, d'avant.
J'ai passé de l'une à l'autre assez rapidement et voilà.
Oui, j'imagine qu'il y avait aussi une. Alors par contre, je ne sais pas lesquels c'était, parce que j'ai cherché un peu voir s'il y avait des...
Oh, c'était des lettres, alors je ne me souviens pas, c'était une association en plus, quoi qu'ils trouvaient que faire de la contraventionnalisation, c'était une erreur, parce que c'était...
Pas assez fort, quoi.
C'était banalisé,
banalisé
il
n'y
avait plus vraiment de réponse judiciaire, et c'était ouais, absurde.
Bon, un peu d'incompétence, des ignorants, c'est sûr. Alors... Certaines choses hein, que j'ai entendues qui m'ont fait un peu plaisir et puis qui méritent d'être un peu relatées. Pour faire bref, hein, c'est Anne Coppel hein, à un moment qui a pris la parole et qui a dit mais en fait, il y a des choses dont on parle qui sont actées. Hein, elle a dit c'est fini maintenant tout ça, on n'en parle plus, il y a consensus de la part de l'ONUDC, de l'ONU sur la question de... Enfin sur le fait qu'il faut abandonner la prohibition, qu'il faut sortir de la répression. Et que, à la limite, elle disait, on discute là, on est complètement en décalage, quoi, en fait, avec ce qui est en train de se passer.
Voilà, c'est tout à fait la bonne question. Hein. C'est pas. Comment on va continuer à prohiber ? Est-ce qu'il faut contraventionnaliser ? Non, c'est comment on légalise ? C'est ça la bonne question à se poser, ouais. Quoi. Après, c'était, je sais plus qui, l'année dernière, qui disait maintenant, il faut amener les prohibitionnistes et leur poser une question. Donnez-nous un seul des bienfaits de la prohibition. Et il n'y en a aucun.
Oui.
Il n'y a que des échecs, que des points négatifs à la prohibition.
Oui, mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup de mauvaise foi, pas que dans ce débat, mais dans beaucoup de débats un peu comment dire, sensibles sur des questions de société. voilà, c'est un peu, je dirais que c'est un peu pareil pour le travail sexuel. Par exemple, la quasi-prohibition, ou en tout cas l'abolitionnisme ou le quasi-abolitionnisme français, et pas que français, hein, n'améliore pas les conditions de vie, de travail des travailleurs, travailleuses du sexe. Mais il y a une mauvaise foi sur cette question qui est telle que on peut pas faire dire à des prohibitionnistes en matière de drogue ou des abolitionnistes en matière de drogue que une réglementation éventuelle pourrait avoir des effets positifs. Je pense que voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais honnêtement, je pense que c'est illusoire d'attendre une évaluation objective ou une reconnaissance des dommages qui sont provoqués par une prohibition ou une quasi-prohibition. Voilà, d'autres choses que j'ai entendues, que j'ai trouvées intéressantes de la part du représentant du cirque notamment, qui parce qu'il y a un des rapporteurs, les rapporteurs de la loi, ils étaient pas méchants, ils avaient l'air plutôt bienveillants, mais on voyait bien qu'ils comprenaient pas tout, ils savaient pas tout, en tout cas, c'était un peu juste quand même. Il y a quand même un rapporteur qui a dit oui, que quand même grâce à la loi et aux arrestations, on arrivait à avoir des usagers en difficulté qui n'étaient pas connus de la part des services médico-sociaux. C'est hallucinant d'entendre un truc comme ça. C'est des propos et des idées qui ont au moins 30 ou 40, 50 ans. Hein. Et donc le représentant du cirque lui a répondu à ce rapporteur. Il lui a dit, mais si effectivement on n'arrive pas à voir les usagers, notamment de cannabis, ou qui ne se rendent pas dans les consultations, c'est parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin, tout simplement. Qu'il y a très très peu d'usagers de drogue en général, hein, et pas que du cannabis ou d'autres substances. Hein, on évalue en pour 10% le nombre d'usagers qui seraient dans des situations d'addiction et qui vivraient mal leur consommation au pluriel. Mmh. Et donc je trouve que c'était quand même bien que le cirque puisse dire qu'il y a beaucoup de gens qui consomment et qui n'ont pas besoin d'aller voir quelque service que ce soit.
Comme la plupart des utilisateurs de vin ne sont pas tous alcooliques.
Exactement.
Il y en a qu'un petit pourcentage, 5 à 10%, et ça doit être à peu près le même pourcentage pour les cannabinophiles,
voilà.
Les utilisateurs de cannabinoïdes, de cannabis.
Autre chose qui a été soulevée, pas que par le cirque, c'est que doit-on comprendre justement de cette contraventionnalisation ? Est-ce qu'on va punir moins ? Ou est-ce qu'on va donner un nouvel outil aux forces de police pour punir plus ? Voilà. Est-ce qu'on va leur donner une nouvelle arme, en fait, parmi tout l'arsenal dont ils disposent déjà ? Arsenal qui a été complété depuis 1970 par tout un tas de lois et de dispositions qui renforcent la prohibition et la répression, pardon. Autre chose que j'ai entendu, que j'ai trouvé sympa, intéressant, c'est, je crois que c'est Michel Sidbon, justement, qui est un éditeur, hein, qui expliquait que, alors il n'y avait pas que lui, mais d'autres intervenants pointaient l'ignorance de la part de beaucoup d'usagers en matière de leur consommation, des produits qu'ils consomment, etc. Et Michel Sidbon d'expliquer que lui, en tant qu'éditeur, et depuis plusieurs années, il édite et distribue et contribue à mettre en vente beaucoup d'ouvrages qui évoquent les substances psychotropes à travers les âges, et d'expliquer que depuis 2004, il y a une véritable censure qui opère en France. Sur le fait que justement il ne faut pas trop diffuser ces ouvrages. Alors il dit il n'y a pas d'interdiction, mais il dit au début des années 2000 on a intimidé tous les libraires et même les grandes enseignes comme la FNAC par exemple, où les forces de police leur ont recommandé vivement, très vivement même, très autoritairement, de ne pas mettre sous les yeux des clients les éventuels ouvrages, et de faire en sorte que finalement on les voit pas et que ces ouvrages n'existent plus dans les rayons, en fait. Hein. Mm-hmm. Et ça, c'est un problème, parce que il y a beaucoup d'usagers des substances qui ont connu les substances en même temps qu'ils ont pu lire et se documenter sur les différentes substances d'un point de vue mythologique, historique, sociologique, anthropologique, et qu'effectivement à partir du moment où on empêche l'usager ou celui qui voudrait le devenir de pouvoir se documenter sur ces produits, alors là on fait une grosse connerie. Et on contribue à répandre effectivement la méconnaissance ou l'ignorance chez les usagers. Voilà, parce qu'encore une fois, dans ce pays, on pense qu'à partir du moment où on met à la disposition des usagers des ressources, une bibliographie, des ressources bibliographiques ou des ouvrages, eh bien, on pense qu'on va inciter les gens à consommer des substances. Voilà. Or, c'est faux. C'est faux, on ne les incite pas, on les informe, et c'est un gros problème en France, hein, et pas que au niveau de livres, hein, mais même au niveau de brochures et tout. On voit bien qu'il y a plusieurs associations comme Technoplus qui ont quand même été ennuyées par les forces de police, et même encore aujourd'hui. Donc voilà un peu ce qui a été soulevé. Ce qui a été également soulevé, eh bien, c'est le lien entre répression et criminalisation des catégories sociales les plus défavorisées venant des cités notamment ou des quartiers populaires, et que ça donnait lieu quand même à beaucoup de procédures, à des interpellations et à des emprisonnements. François-Georges Ducirc a confondu le nombre de condamnations, 3000 et quelques, avec le nombre de personnes emprisonnées. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas 3000 personnes qui sont emprisonnées chaque année pour un délit d'usage, hein, mais il y a 3000 peines de prison qui sont prononcées par an pour des questions d'usage ou de détention de petites quantités. Lequel rapporteur a répliqué en disant qu'il y aurait peut-être à peine 100 usagers qui seraient incarcérés par an. C'est faux. On sait que pour 2016, il y en a au moins 1400, je crois. Et quand bien même il n'y en aurait que 100, mais ça serait 100 de trop. Et quand bien même, et en plus, 100, c'est sur une année, mais si on élargit ça sur une période de 10 ans, ça fait plusieurs milliers de personnes. Voilà.
On peut l'élargir sur 45 ans, d'ailleurs.
Et on peut, d'ailleurs, l'élargir, effectivement, sur 47 ans, même 46
voilà,
ans.
Je pense que voilà, c'est plus que 100 personnes, ça serait plutôt un millier. Donc
voilà.
Sur 45 ans, ça en fait quand même 50 000 qui ont ces condamnations à leur casier judiciaire et qui traînent ça comme un boulet pendant toute leur vie. À chaque fois qu'ils se font arrêter par la police, ah bah vous êtes connu par nos services, ah bah si, ah bah ça, vous êtes dans nos sticks, etc., etc. Quoi, c'est parce que là aussi, hein, tous ceux qui sont juste en garde à vue, hein, ce qui est quand même 150 000 voire même 200 000 maintenant par an, rentrent aussi dans leurs sticks et donc ça fait là encore beaucoup,
des millions,
des millions de personnes,
des millions de gens. Voilà, donc. Ah oui, et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand même à deux ou trois reprises, je ne sais pas si tu as entendu ou si tu as fait attention, les rapporteurs de la mission, là, ont dit on discute de tout ça, mais attention, on vous rappelle quand même que ce gouvernement n'est absolument pas aujourd'hui dans un quelconque débat sur légalisation, dépénalisation, quoi que ce soit. Voilà, ils sont complètement. Ils sont très loin derrière, hein, très très en retard. Et voilà, donc plusieurs fois les rapporteurs ont voulu recentrer le débat. Oui, on parle bien de la pertinence ou je sais pas quoi. Vous avez donné un peu les questions la semaine dernière. Là. Voilà, ils voulaient recentrer vraiment sur la contraventionnalisation, mettre des PV.
Voilà, ce qui est impertinent.
Ce qui est complètement, complètement à côté de la plaque. Donc voilà, bon. Il y a eu un François-Georges aussi du Cirque, hein, qui est passé sur Sud Radio et qui a dit quelque chose de très juste. Hein. Il a dit, nous, ce qu'on attendait, c'était que M. Macron fasse comme M. Trudeau au Canada. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'il s'est présenté aux Français, comme quelqu'un qui entendait faire des réformes, quelqu'un de jeune, de moderne. Bon, jusqu'à présent, ce qu'on voit, et pas uniquement sur la question des drogues, c'est qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de moderne. Voilà. Ah. La suite, on va enchaîner, on va pas rester sur ces commissions.
On enchaîne sur la musique, on enchaîne sur...
On va enchaîner sur un petit article d'abord. Hein, peut-être.
Allez, on va se faire l'Indonésie, pour rappeler les méfaits totaux de la prohibition. Qu'un jeune Français qui a été arrêté à Bali avec 14 grammes de cannabis, donc risque jusqu'à 20 ans de prison... Et sans doute au minimum 5 ans. Donc Anthony Lampert, 23 ans, et on va peut-être en entendre parler pendant un petit moment parce qu'il va sans doute rester quelques années en prison et qu'on va en parler, quoi, comme on a parlé de Michael Blanc à son époque, qui lui, je crois, est enfin rentré en France.
C'est possible, il n'y a pas très longtemps là.
C'était cet été, oui, tout à fait.
Cet été, j'aurais dit début septembre. Là. Bon, bref, en tout cas, pour Michael Blanc, ça semble se terminer.
Voilà.
Il a été condamné à mort au départ. Hein. Et puis, à mon avis, il sort de cette épreuve dans un état de santé pas terrible.
Voilà, tout à fait. Il a été en prison de longues années. Après, il a été mis en résidence sur l'île. Bon, en tout cas, il n'avait pas le droit de sortir d'Indonésie. Et puis là, voilà, et enfin, il a pu rentrer.
Voilà. Alors, Il y en a un qui sort et il y en a un autre qui rentre en prison, là, effectivement, Anthony Lambert. Il n'est pas le seul non plus. Il y a un autre Français qu'on a pas mal parlé à cette antenne les années précédentes, c'est Serge Atlaoui, qui carrément est condamné à mort et qui a failli être exécuté en juin 2015. Il est toujours dans le couloir de la mort. Et pour lui, les choses avancent pas. Hein. Voilà. Bon.
Ah, il est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas une affaire dans laquelle il est tout seul. Si je
tout
me
à fait.
Bien, c'est dans un trafic organisé ou plutôt dans une confection de
d'amphétamine,
alors que lui était là juste pour faire tourner
La soudure. Voilà, c'est un soudeur au départ. Enfin bon, en tout cas, c'est compliqué pour lui.
Et puis il faudrait qu'on regarde aussi l'autre cas de la jeune Française qui était embêtée.
Maline Maurice.
Non, il me semble que c'était en Europe pour des graines.
D'accord, je sais pas.
Il y avait une histoire dont on a parlé aussi. Il faudrait qu'on revienne dessus. Non,
parce qu'il y a Aline Maurice, il y a des Français et une Française, notamment de Lyon, de la région lyonnaise, qui est en prison depuis plusieurs années pour du Subutex.
Oui, non, mais là, c'était vraiment pour des graines de cannabis.
D'accord. Enfin bon, voilà. En tout cas, les lois antidrogues ne sont pas qu'en France. Il y en a un peu partout dans le monde et...
Voilà, et puis on va faire juste une aparté sur les Philippines aussi, tant qu'on est dans les pays les pires, parce que je crois quand même que...
Ben oui, entre Philippines, alors l'Indonésie c'est Joko Widodo qui est le président et qui est également très à cheval sur les histoires de drogue. Et il y en a un autre, alors là, qui est quand même vraiment gratiné, c'est Rodrigo Duterte. Oui. Qui est le président des Philippines. Alors, je te disais, c'est pas un dictateur dans le sens où
il a été élu
démocratiquement avec un très fort soutien populaire.
Voilà, et puis en plus,
et qui est toujours
sur son slogan, hein,
très soutenu. Hein.
Toujours très soutenu. Donc lui, il a relancé la guerre à la drogue. Il a quasiment donné un blanc-seing à tous les policiers pour tuer tous les drogués
ou tous ceux qui pensent l'être.
Voilà,
parce que je pense que dans le plus du millier qui sont morts, il y en a qui n'avaient rien à voir avec le chemin public.
C'est ce que j'allais dire, c'est que les flics en ont profité ils se sont appropriés des terrains, ils ont descendu à qui mieux. Alors certains c'était des trafiquants, certains des simples utilisateurs, et puis certains ils n'avaient rien à voir avec tout ça.
Je pense que...
Donc ça a fait quand même beaucoup de morts, cette guerre à la drogue, des circonstances inexpliquées de milliers d'autres personnes. Duterte a été élu en 2016, hein, en prenant d'éradiquer le trafic de drogue, quitte à tuer des dizaines de milliers de toxicomanes. Donc ça, il le fait, et y compris d'autres personnes. Donc évidemment, comme il y a plein de morts suspects, il y a une commission des droits d'homme qui a essayé de se faire.
Ben, d'enquêter dessus. Oui.
Et d'enquêter dessus. Et comment dire.
Le budget de la commission a été raboté.
Voilà, et amené à 1000.
1000 pesos.
1000 pesos, ce qui correspond à
16 euros. Pour l'année 2018.
Voilà, le budget est de 3800 milliards de pesos en général. Donc 1000 pesos là-dessus, vous voyez que ça représente. Même pas un cent millième, voilà. Un millénième même. Voilà, donc c'est vraiment ridicule, ça représente rien, et donc c'est tuer cette commission pour qu'elle arrête d'enquêter.
Alors il y avait une femme qui présidait cette commission, c'était une sénatrice, Leila de Lima. Alors elle a carrément été arrêtée au mois de février pour des raisons qui sont qualifiées de politiques, hein. Par une résolution du Parlement européen. C'était une ancienne ministre qui a été considérée donc par l'ONG Amnesty International comme une prisonnière d'opinion.
Voilà. Voilà, donc du coup, il y en a quand même qui essayent de se lever contre ça. Alors c'est assez rare pour le signaler, ce sont les églises.
Ah oui, ça c'est
qui se sont levées un peu contre ça, et donc qui, jeudi soir, donc le jeudi 14 septembre, ont toutes, pendant 5-10 minutes ou un quart d'heure, fait sonner leur cloche pour alerter la population. Pour alerter les nombreux homicides liés aux drogues. Voilà, et donc certains curés disent: on ne peut pas gouverner la nation par des tueries. Ça c'est le cardinal de Manille qui a dit dans certains endroits. Il y a quelqu'un même a tapé tellement fort sur sa sur sa cloche qui l'a fait voler, quoi, qu'il l'a cassée. Elle était vieille de 171 ans, cette pauvre cloche. Donc c'était dans un bidonville de Manille, voilà, c'est à la cathédrale Saint-Roquier. Donc voilà, c'est assez, assez étrange et pour le noter qu'à des endroits, les églises ont des positions un petit peu progressistes.
Oui, c'est, je sais pas. Hein, mais, en tout cas, vu le degré de, comment dire, de d'archaïsme ou de violence qui est prôné par ce président et la police, oui, l'Église fait figure de progressiste à côté. Ouais. Alors l'Église a déjà eu un rôle hein, dans la Révolution, notamment en 86 lorsque c'était Marcos qui était président. Il avait un rôle dans sa défection et qui avait donné la possibilité à Cory Aquino, à l'époque, d'être élue présidente.
Voilà, donc comme 80% des Philippins sont catholiques, peut-être que ça aura un effet et qu'ils arriveront à se libérer de ce...
Ben, surtout ne pas revoter pour lui.
De ce dictateur élu. Voilà, mais bon, je crois que c'est l'époque qui veut ça. Nous, on a bien élu un Bonaparte.
À la place d'une je-sais-quoi.
Aïe, voilà, aïe, aïe. Donc, bon, allez, un petit peu de musique et...
J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes.
Fumer.
J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que ce commerce fait recette.
Va te fermer.
J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent.
Et que j'en donne à des gens
qui allègrement amassent les bagues en diamant
sur dos de pauvres paysans. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins,
décorer les balcons. Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds lourds.
Qu'on arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds lourds. Et faut bien espérer. J'ai pensé que peut-être tout c'est une malhonnête.
Serve à nos dirigeants
qui s'entêtent et répètent à dire que la fumette
c'est pas bon pour les gens.
J'ai compris que pour du chichon, tu peux aller en prison.
Que l'alcool tu as foison.
Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons,
c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins, décorer les balcons.
Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon.
Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
On arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang, boom.
Et voilà, c'était encore Trio.
Voilà, bah, à cause de la commission, la mission d'information là, qui veulent nous foutre des amendes là. À la demande de ce ministre de l'Intérieur qui a été maire de Lyon et qui, avant d'être maire de Lyon, côtoyait plein de gens à l'époque autour de lui dans le Parti Socialiste à Lyon et plein de gens qui fumaient du cannabis et il y voyait rien à redire, le père Gérard. Hein. Voilà, mais bon, c'était une autre époque.
C'était une autre époque, voilà, comme il y a certains députés d'En Marche qui étaient des gros fumeurs.
Aussi, oui. Ouais, ah, donc ou qu'ils sont toujours d'ailleurs.
Peut-être, on va voir d'ailleurs ce qu'ils deviennent. Il va falloir qu'on les tarabuste un petit peu.
Ouais.
Hein, Jonathan.
Je sais pas qui c'est celui-là. Ah, bon, ok, c'est pas grave.
C'est la mouette qui vole toujours. C'était son surnom.
Ah, ok. Bon, voilà, vous en saurez plus dans les prochaines semaines. Alors
voilà, alors après, bah, les jeunes, qu'est-ce qu'on peut dire sur les jeunes qui fument ? Est-ce qu'on prend cet article du Figaro qui est terrifiant ?
Bah, j'ai pas trouvé tant que ça, remarque.
Oui, bah, c'est quand même Coutron qui parle, donc il y a des choses lui, assez autres, intéressantes, mais bon, voilà. Donc, bah, voilà, c'est quelqu'un, une mère de famille qui évidemment s'occupe des fringues de ses ados. Hein, elle lave le jean et hop, dans une poche, qu'est-ce qu'elle trouve ? De l'herbe. Mon fils, non, c'est pas possible. Bah, tous les autres jeunes, ils fument, mais pas mon fils, quoi.
Ouais.
C'est forcément de la faute de quelqu'un, quoi. Hein ? Ouais, donc ça doit être ou l'oncle ou quelqu'un qui. C'est à cause de quelqu'un, quoi. Voilà, donc Marie a fait la découverte brutale d'une réalité statistique. Les Français sont les plus jeunes fumeurs de cannabis en Europe, les plus jeunes et les plus nombreux. Voilà, à 17 ans, ils sont 42%. À cette époque de la vie, avec l'alcool et le cannabis, ils font leur première expérience des substances chimiques qui modifient leur état de conscience et leurs sensations. La majorité des jeunes utilisent ces substances de façon récréative, même si certains d'entre eux s'en servent pour soigner des souffrances de l'enfance, explique Jean-Pierre Coutron. Voilà. Jean-Pierre Coutron, qui est président de la Fédération d'addiction, donc qui a été
Fédération d'addiction, oui, qui a été
interrogé dans la commission dont on parlait tout à l'heure.
Il a dit des choses très intéressantes également.
Voilà, donc bon, il rappelle quand même que fumer régulièrement entraîne des fréquentes bronchites chroniques. Et il rappelle aussi que chez les ados, les effets délétères du cannabis ont affecté en tout premier lieu les neurones. Voilà, le cannabis, alors ça c'est la professeure Odile Krebs, donc, qui rajoute, hein, qui est psychiatre. Donc alors le psychiatre c'est le pire, parce que eux, ils ne voient que les jeunes qui ont des problèmes avec le cannabis. Parce qu'il y en a quelques-uns, ils sont pas nombreux. Mais eux, on les met en psychiatrie, donc les psychiatres, ils les voient. Ils considèrent que tous les gens qui consomment du cannabis
peuvent
sont
être
sont comme ça.
Comme alors ça, ils peuvent finir en psychiatrie.
Que c'est qu'une infime minorité. Ah, donc eux, ils arrivent à dire des grosses conneries. Hein, voilà. Donc en gros, hein, mais bon, voilà, on va dire un peu le moins pire de ce qu'elle raconte, hein, à l'adolescence. Le cerveau est encore en pleine maturation et le cannabis va perturber ce processus avec les risques d'effets persistants à long terme. C'est bien si elle disait que l'alcool avait les mêmes effets, elle serait complète dans son tableau et ça serait beaucoup plus intéressant. Voilà, bon, il rappelle une étude, puisque les très jeunes avaient qui avaient fumé avaient jusqu'à 8 points de QI en moins, mais ces jeunes qui avaient fumé avaient aussi fumé du cannabis, avaient fumé aussi des cigarettes, avaient aussi bu beaucoup d'alcool. D'où la difficulté d'être réaliste et d'être dans la réalité. Voilà, donc après, qu'est-ce que. Que peuvent faire les parents comme Marie, qui n'imaginent pas que leur petite tête blonde puisse être des consommateurs et des fumeurs? Le conseil de Coutron, c'est déjà essayer de rester réveillé et de voir dans quel état il rentre, quoi. C'est déjà la meilleure façon de voir les choses. S'il rentre en se traînant par terre, c'est qu'ils sont un petit peu trop ivres, etc. Voilà un petit peu pour le pour cet article. T'as des choses à rajouter, non?
Bon, là-dessus, non. Juste, je repense à ce que disait Coutron, justement, à la mission d'information. Il parlait du binge drinking.
Mm-hmm.
Il disait comme ça, voilà, moi, quand j'ai commencé ma carrière et tout, il disait, par exemple, il y a 30 ans, le binge drinking, on voyait pas ça. Voilà.
Oui.
Aujourd'hui, ça existe.
Voilà, donc ça c'est les deux autres articles que tu nous as mis aussi dans la revue de presse. L'un du Parisien qui s'appelle Tabac, cannabis, alcool, écran, nos enfants sont-ils tous accros ? Ou l'autre, la jeunesse est en danger,
Amine Benyamina.
Voilà, qui est président de la Fédération française d'addictologie. Voilà, et les deux d'ailleurs, bon, donc. Il parle des conduites addictives, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant que de parler d'un produit en particulier, puisque le souci il est là. Les conduites addictives flambent chez les jeunes, donc c'est voilà, c'est pas une question de drogue légale ou de drogue illégale, c'est une façon d'être de notre jeunesse actuelle qui est de plus en plus...
On est vide, une société addictogène. Et...
addictogène, voilà.
Voilà, ils expliquent, c'est intéressant ce qu'ils disent.
Voilà, donc les addictions flambent, le binge drinking, véritable biture express, est devenu un incontournable des soirées étudiantes.
Ah oui, alors...
Avec un nouveau phénomène, rester à jeun pour être ivre encore plus vite.
Alors, juste dans ce, au niveau du binge drinking, voilà, je ne sais pas si c'est Coutron, là du coup j'ai un doute, qui disait que... finalement, on lutte pas contre les lobbies alcooliers qui vont commercialiser des boissons au goût de cerises, de pommes vertes ou de je ne sais quoi, qui sont vraiment destinées aux jeunes, aux voilà, moins de 18 ans.
Très sucré et bien alcoolisé.
Tout à fait. Voilà. Et là, en avant.
Voilà, donc on tape sur alcool et on tombe sur plein de jeux comme le drink roulette ou le drinkopoly. On désigne clairement orienté vers les jeunes. Bon, moi je sais pas, quand j'étais jeune, il y avait un truc qui s'appelait le 7-14-21. Ouais. 7 on commande, à 14 on paye, à 21 on boit. Hein, et puis on faisait tourner les dés. Hein, et chaque fois qu'il y avait un 1, on rajoutait. Hein,
voilà. Il y a plein de jeux pour des jeux à boire. Il y a
plein de jeux à boire. Donc bon, c'est maintenant il y a les jeux sur le net forcément, puisque ça a toujours existé. Ouais,
mais par contre, à l'époque, il n'y avait pas ces boissons qui étaient spécifiquement destinées aux très jeunes.
Tout à fait.
Il y avait la bière, il y avait le vin, bon, les alcools qu'on connaît, mais il n'y avait pas tel vodka à goût je ne sais pas quoi, ou telle bière, ou telle je ne sais quoi, bref.
Voilà, donc Jean-Pierre Coutron rappelle, mais là aussi il est interviewé dans cet article du Parisien, il dit « La culture de la sensation, de la compétition systématique crée une pression sociale sous-estimée. Dès le plus jeune âge, nos enfants sont exposés à l'intensité, ils sont surstimulés. » Voilà. Donc les écrans qui les isolent sont souvent la première dépendance de laquelle ils peuvent découler d'autres, bien aidés par les puissants lobbies de l'alcool et de la cigarette. Ce dont tu précisais, on rappelle aussi que voilà, on a beau faire des plans d'éducation santé, dans tous les trucs de sport, c'est sponsorisé par des alcooliers.
Gauloises,
voilà.
Smirnoff ou je ne sais quoi.
La jeunesse en danger, donc Amin Benaya dit un petit peu la même chose. Voilà, donc elle rappelle tous les problèmes. Hein. L'alcool touche de plus en plus jeunes, et notamment les filles. Avant, vous pouviez dire les addictions à l'alcool, c'est les quinquas, les joints, les ados, aux médicaments, les femmes. Aujourd'hui, c'est faux, l'alcool n'est plus la drogue ringarde des vieux. On le doit à l'industrie de l'alcool qui a besoin de renouveler son cheptel. Voyons les adultes freinés, elle cible les plus jeunes. Qui peut croire qu'un rosé saveur sucette ne s'adresse pas qu'à des très jeunes.
C'était pas Coutron, c'était Benyamina dans cet article-là. Un rosé saveur sucette. Non mais franchement.
La loi Evin qui a été totalement déviée et rabotée.
Oui, qui a été détricotée. Oui.
Détricotée par les alcooliers divers et variés.
Enfin, sous la pression des alcooliers, les politiques, parce que c'est quand même toujours pareil, c'est sous la pression des industriels, les politiques ont voté des lois qui infléchissent la loi Evin. Et voilà, donc ces politiques qui font ça, je m'excuse d'être aussi radical, mais ils ont du sang sur les mains, parce que c'est au détriment de la santé publique.
En tout cas, ils ont la santé des jeunes dans leur...
Ils sont responsables, ils ont une forte responsabilité. Et alors, maintenant, en plus, on sait bien que sur Internet, où beaucoup de gens, et notamment les jeunes, vont, et notamment sur des réseaux sociaux comme Facebook, Benyamina explique qu'effectivement, il y a une promotion d'alcool qui est très soutenue, et des dizaines de pages de marques de bière avec des millions de fans. Voilà.
Et la promotion de l'alcool est omniprésente, souvent liée aux événements sportifs et donc à la performance. Voilà, donc après elle rappelle aussi, elle parle aussi du binge drinking et tout ça. Et voilà, elle écrivait « Quand les jeunes boivent, c'est le cerveau qui trinque ». Et elle rappelle, voilà, il faut que la jeunesse se passe, hein, donc elle n'est pas anti-alcool, elle boit aussi du vin, donc il faut que la jeunesse se passe, pas qu'elle trépasse, voilà, une bonne formulation. Voilà un petit peu pour dire les deux, trois petites choses qu'on pourrait dire sur les jeunes et les addictions, hein, pour ne pas rester que sur le jeune et le cannabis.
Ouais, mais si vous fumez un joint, vous prendrez un PV. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Pour ça qu'ils fument et qu'ils se droguent tous ces jeunes, et on n'est pas assez sévère. Faut les mettre en prison, faut les fouetter. Hein ? Puis ils verront bien.
Voilà, dans des camps de redressement.
Dans des camps de redressement, ouais. Oh là là, on va venir un peu aux bonnes méthodes des années 30 et 50.
Voilà, voir aux méthodes russes, hein, à la poutine,
ouais.
Ou chinoise, hein, pour des gens qui sont addicts au smartphone, allez, aussi pareil.
Ah ouais, t'as raison, je suis d'accord. Voilà.
Oh, faut arrêter de déconner.
Ouais, puis on devrait même les envoyer en Chine, tiens. Là-bas, voilà. Y a des bonnes prisons en Chine.
Et puis là, regarde-moi ça, dans le Nord, mais t'as vu ce qu'ils osent faire avec
là.
Fromage au cannabis.
Mais c'est un scandale.
Oh.
Des fromages à la drogue.
Pour une rentrée zen, goûtez votre fromage au cannabis.
C'est une insulte à l'appellation d'origine protégée ou contrôlée.
Oh là 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 là. N'empêche que les forces de l'ordre, ça les a pas fait rire. Hein. Ils ont tout de suite et immédiatement fait une procédure.
Hein. C'est normal que ça les a pas fait rire, ils en ont pas mangé.
Voilà, et une amende de 2000 euros à la clé. Hein. Ouais, d'ailleurs, ils en auraient mangé, ça leur aurait pas fait grand-chose. Hein. Il y a que des graines dedans. Et comme tout le monde sait, dans les graines, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de THC. Mais bon, tout le monde le sait, presque tout le monde, hein, sauf les forces de l'ordre.
Alors, c'est pas pour ça qu'il a pris 2000 euros. Il a pris 2000 euros parce que c'est associé à une... C'est présenté sous un jour positif, parce qu'il avait rajouté... une rentrée zen. Voilà. C'est pour ça. Mais alors, il a été très maladroit, ce vendeur de fromage, parce qu'il aurait parlé de fromage aux graines de chanvre. À mon avis, il n'avait pas de soucis.
Oui, ou Ocean V. Hein,
ou Ocean V, ouais.
Oui, mais c'était moins vendeur.
Oui, certes, certes.
Voilà, voilà, donc La Prairie, donc le journal, la boutique qui vendait ça,
La Prairie,
a été invité par la police à retirer une affiche vantant un fromage à la graine de chanvre. Donc,
de cannabis.
Voilà, voilà, voilà. Par contre, moi, ils ont quand même du mal à dire qu'il y a vraiment une infraction, hein, parce que c'est quand même compliqué, parce que c'est si on met en exergue le fait qu'il y ait une drogue, mais là, comme s'il n'y a pas de drogue, c'est comme si demain, je fais un procès à mon boulanger qui vend son pain avec des graines de pavot.
Mais oui.
quoi, je sais pas, quoi, on va marcher sur la tête.
Alors, on ne sait pas, hein. Peut-être que sa farine est mouchetée. Parce que c'est comme ça qu'on disait à l'époque, hein, quand la farine était,
attaquée par l'ergot de sec.
L'ergot de sec, on parlait de farine mouchetée, en fait.
Voilà, voilà.
Bon, alors, dans l'article, moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez peu au courant, comme souvent, hein, d'ailleurs. Parce que quand même, à la fin, on lit quand même la dernière phrase. Jusqu'alors, je sais pas, jusqu'au 15 septembre 2017, enfin bon, jusqu'alors, représenter une feuille de cannabis n'était pas considéré comme une provocation à l'usage. Alors là, j'ai halluciné, parce que on a déjà eu des articles ou des cas similaires où justement montrer une feuille de cannabis, c'est déjà de la ça peut déjà être considéré comme une provocation à l'usage, et on connaît, on a vu, hein, des vendeurs de fringues, voilà, se faire ennuyer par la maréchaussée parce qu'il y avait des vêtements, hein, qui arboraient une feuille de cannabis ou une casquette.
Et même certains ont eu des. Ceux qui sont fait confisquer leur stock.
Voilà, exactement.
Ont pris des amendes.
Ont pris des grosses amendes.
Voilà, donc après, toujours dans la justice, hein, on va parler très rapidement de... C'est la Dépêche qui nous parle ça, c'était devant un tribunal, c'était une femme...
C'est dans le Lot.
Dans le Lot, une femme de 54 ans hein, qui a été arrêtée en 2015, hein, donc ça fait déjà un certain temps, hein, la justice a toujours un peu de retard, tout ça parce qu'elle elle a beaucoup de douleurs, donc et la morphine la soulage très peu, et donc elle préfère le cannabis qui la soulage plus, donc elle fait cultiver elle cultive elle-même son chanvre, donc tout se passait bien, sauf que je sais pas, lors d'une soirée, il y a un ami de son fils qui a été malade et qui a été pris avec de l'héroïne, et du coup, ben, ils ont dénoncé la mère de ce de ses copains, voilà. Et donc, du coup, elle a été embêtée à cause de cette histoire-là.
Ouais, ou elle avait rien à voir avec le.
Elle avait rien à voir avec le Schmilblick, mais ça n'empêche pas que ben elle se retrouve. Donc là, elle a été disculpée de cette affaire. Par contre, ben on lui a fait un procès puisqu'elle était consommatrice de cannabis, que ça soit pour du uniquement thérapeutique. Ça, le procureur de la République n'en a eu rien à faire. Voilà. Mais donc on ne sait pas exactement la peine.
Pour l'instant, on sait pas.
Si le cannabis supposé thérapeutique retrouvé chez elle lui a finalement valu une peine de 2 mois de prison avec sursis.
Ah si, oui, voilà. D'accord. Mais c'est vraiment passé dans un petit coin, hein, dans un petit bled, hein, qui est très joli. D'ailleurs, Cabreret, c'est un petit village très très très, très beau. Voilà. Pas très loin de Cahors, en effet, oui.
Autre cas qui a été jugé à Versailles le 30 août, c'est un boucher qui cultivait son cannabis. Il avait un petit box dans lequel il faisait sa culture. Hein. Voilà, donc les policiers on se sont aperçus d'une anormale consommation d'électrique.
Alors suite à une dénonciation, suite à un appel anonyme, hein, voilà. C'est vraiment incroyable.
Donc ils ont suivi les faits, voilà, donc ils sont tombés sur le pauvre Cédric qui a son... Sa fabrication et son utilisation depuis 2012. Donc les policiers ont 2012 en 5 ans. 14 kilos, je ne sais pas comment ils y arrivent.
Ah ben alors ça...
Parce que Cédric, lui, évoque le chiffre de 80 grammes mensuels. Donc ça fait 800 grammes. Bon, on arriverait à 4 kilos, hein, mais bon... voilà, en tout cas, il explique que cette plantation lui a permis de s'affranchir des dealers, ça coûtait moins cher, voilà. Mais il n'a fait aucun trafic, rien n'a été, en tout cas, mis là-dessus. Mais le pauvre Cédric avait déjà des problèmes, il avait du sursis parce qu'il avait copé 9 mois de prison pour conduite sans permis. Donc, voilà, alors bien que l'article est assez étonnant, puisque il dit le tribunal a visiblement été sensible au plaidoyer, mais ça n'empêche pas qu'il ait quand même pris 6 mois de ferme d'emprisonnement. Donc, en plus des 9 mois de sursis révoqués, ça fait quand même 15 mois il va aller en prison. Voilà. Donc, le juge lui a invité, le condamné a demandé dans quelques temps sa libération conditionnelle. Vous avez un bon dossier pour cela. Voilà, si le juge avait été intelligent, je pense qu'il n'aurait même pas mis de prison ferme. Mais bon, ça fait partie des incohérences de certains.
En tout cas, 6 mois de prison ferme pour une culture, une autoculture à des fins personnelles, c'est une peine très lourde, moi, je trouve. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on a vu plusieurs fois des gens poursuivis pour une quantité de plants saisis assez importante qui se prenaient du sursis, quoi.
Voilà, donc sinon au Canada, donc ils continuent à étudier comment ils vont légaliser. A priori, d'une région à l'autre, ça va être différent.
Ouais, moi je dirais même que ça s'annonce mal. Hein.
Voilà, le Québec pour l'instant, on va voir, hein, ça s'annonce pas, ça dépend où. En tout cas, au Québec, ça s'annonce mal, il va pas y avoir d'autoproduction possible. Ce qui n'est pas le cas à Ottawa, où les gens pourront avoir jusqu'à 4 plants de cannabis.
D'un mètre de haut.
D'une hauteur de 1 mètre maximum, hein, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, donc... Après, bon, ça génère avec des 4 plans de 1 mètre de haut, ça fait plus que la mairie, que les 30 grammes autorisés par le projet de loi fédéral. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. L'achat en ligne, oui, non, sans doute. Comment on va faire pour la distribution? Est-ce qu'on va mettre des quotas de distribution ou pas? Donc ça, a priori. Ils se sont rendu compte que les quotas, ça faisait augmenter le prix de la licence. Hein.
Et oui.
C'était pas très intéressant. Il fallait mieux mettre un nombre de licences illimitées. Voilà, donc après, bon, c'est, il y a plein de discussions, hein, entre 80 points de vente dans un endroit, 150 à un autre, voilà. Est-ce que tout ça va passer comme le SAC, donc c'est le service alcool du Québec, la société des alcools du Québec,
enfin, ouais, ça serait, c'est le Québec qui gérer ça. Ouais.
Ils ont une façon assez particulière de gérer l'alcool, donc voilà, est-ce que ça sera ça? Voilà, et enfin, pour l'âge, là aussi, c'est différent. Au Québec, ça serait 18 ans, comme à Ottawa, mais bon, dans d'autres endroits, ils parlent de 21 ans plutôt que 18 ans. Voilà, bon, c'est rien n'est encore fixé, ils sont encore en plein débat.
En tout cas, les cannabinophiles du Québec sont très inquiets. Il y a quelques posts là sur les réseaux sociaux de Hugo Saint-Onge, qui fait partie du Bloc Pot au Québec, qui, puis on en avait parlé un peu, eux ils sont très inquiets, ils se demandent s'il va pas y avoir finalement une loi qui va soi-disant autoriser la consommation du cannabis, mais on pourra s'en procurer nulle part, on pourra pas en faire pousser, enfin, en tout cas ils sont très inquiets, et malheureusement on peut tout à fait avoir ce genre de disposition à l'avenir. C'est inquiétant.
Ben oui, c'est inquiétant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben juste dans les choses qui sont positives. Alors les Suisses aussi, c'est pas encore légalisé. On vous avait parlé.
Oui, c'est très positif.
On vous avait parlé il y a pas longtemps, avant l'été, donc de la nouvelle, des nouvelles variétés de chanvre sans THC qui commençaient à être vendues un peu partout en Suisse. Ouais. Donc voilà, donc c'était déjà, ça commençait à devenir compliqué, parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un chanvre sans THC qu'un chanvre avec THC, ou qu'un chanvre sans THC, sans CBD, sans rien? Ils sont tous à peu près équivalents, ils peuvent être tous très beaux. Voilà, après c'est l'effet quand on le fume, et ça il faut le fumer, ou l'utiliser, ou l'ingérer, ou le vapoter, ou n'importe quoi, hein. Fumer est une des pires façons d'utiliser le cannabis. Donc, ce chanvre avec beaucoup de cannabis, de CBD est légal, surtout s'il n'a pas de THC en Suisse. S'il a moins de 2% ou de 1% de THC, c'est-à-dire 10 fois plus qu'en France.
1% maximum.
1% maximum, donc c'est 10 fois plus qu'en France.
Oui, mais c'est un...
Voilà, donc il se posait même la question si ça serait pas vendu dans des supermarchés, comme quoi ça allait très très vite. Et là, le débat reprend de plus belle pour... donc c'est dans le TGD Suisse qui explique que les Suisses sont prêts à légaliser le cannabis. Donc c'est selon une étude récente. 2 Suisses sur 3 souhaitent qu'une nouvelle réglementation du chanvre soit mise en place. Voilà, entre autres, même les romans, 56% et historiquement plus conservateurs seraient d'accord. Voilà, 83% des Tessinois sont convaincus que lever l'interdiction du cannabis serait une bonne chose. Voilà, donc bon, ce sera pas sous n'importe quelles conditions, hein. Il va y avoir, ça va être encadré, ça sera interdit au moins de 18 ans. Ça sera réservé soit à des commerces spécialisés ou des pharmacies avec du personnel formé, voilà. Donc, ils veulent une réglementation similaire à celle de la cigarette. Voilà, ils expliquent que légiférer permettrait de mieux contrôler la qualité des produits, d'augmenter les recettes fiscales et de réduire les problèmes liés à la consommation. Voilà, ben, au moins, ils sont très pragmatiques, nos amis suisses, hein. Il rappelle donc que le système existant ne fonctionne pas. Voilà, et en plus on peut très facilement se procurer de l'herbe dans la rue, même si l'on est mineur. Donc légiférer permettrait de mieux contrôler la qualité des produits, d'augmenter les recettes fiscales et de réduire les problèmes liés à la consommation. Voilà, voilà, donc...
Ça suit son cours positivement là-bas.
Voilà, et il faut trouver la bonne méthode pour réguler donc le marché.
Mais ils vont y arriver.
Oui, ils étaient avancés, ils avancent, ils reculent. Bon, ils y étaient presque, et puis ils étaient revenus en arrière. Donc peut-être que cette fois, ils vont y arriver.
Voilà. Donc voilà, c'était dans la Tribune de Genève, cet article.
Voilà, donc pas, ben, voilà. Y a, encore une fois, il y a l'article
de l'OIP qu'on n'a pas parlé, mais je le remettrai la semaine dernière. La semaine prochaine.
Ouais, pas de problème, on l'avait mis la semaine dernière.
J'avais mis la semaine dernière, mais je le remettrai la semaine prochaine. Voilà,
voilà. Voilà.
Et
on en parlera parce qu'il est assez complet, assez intéressant, et de toute manière, il amène de l'eau au moulin de la discussion actuelle.
Voilà. Donc on va se quitter là-dessus, juste avant de partir et de vous laisser avec Chasseur de Son. Vous rappelez les coordonnées du Cirque Lyon, le Cirque Lyon que vous pouvez joindre par téléphone au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous écrire Cirque Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à notre page Facebook. La page Facebook du Cirque Lyon, la page Facebook du Cirque aussi, et notre site internet qui, il est vrai, n'est pas super remis à jour, je le reconnais. C'est vrai que maintenant, pour s'informer sur Facebook finalement, ou sur Twitter aussi, c'est presque là qu'on trouve le plus d'infos, les plus régulièrement mises à jour. Voilà.
Voilà, et donc, et on rappellera jamais assez que fumer n'est pas bon, vaporiser donc, et laisser les cultures à ceux qui les ont plantées.
Voilà. Merci pour ces aimables recommandations. Et maintenant, c'est Chasseur de Son. À la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Au revoir.